Dell, David Ben-Gourion avait dit « Si on écrit un jour l'histoire d'Israël, on dira que c'est une femme qui a permis à notre nation d'exister. Cette femme, c'est Golda Meir. Elle a connu un parcours exceptionnel. Golda, née le 3 mai 1898 dans la famille Mabovitch à Kiev. Le premier souvenir de Golda, c'est celui de son père. Il va clouer avec des planches la porte et les volets de l'appartement par crainte d'un pogrom, un pogrom des Cosaques. Il faut partir vite et les Mabovitch vont chercher refuge en Amérique. Là-bas, Golda rencontre un peintre d'affiches. Il s'appelle Maurice Meyerson. Golda et Maurice se marient le 24 décembre 1917, mais Golda annonce la couleur à son mari, on va partir au kibbutz. Maurice n'est pas sioniste, mais alors vraiment pas du tout. Il est sauvé par le gong, car la Première Guerre mondiale éclate. Mais en 1921, les Meyerson embarquent pour la Palestine. Ils s'installent au kibbutz Mechavia, où les conditions de vie sont très difficiles. Et Maurice vraiment ne supporte pas. Après 2 ans, les Meyerson partent pour la ville. À Tel Aviv, on confie à Golda des responsabilités. Tout d'abord la Histadrut, le grand syndicat, puis au Mapai, le parti sioniste socialiste aux côtés de Ben-Gourion. Elle est de toutes les réunions, elle accepte toutes les missions. Avec Maurice, ça ne marche vraiment pas. Malgré les 2 enfants qu'ils ont ensemble, Menachem et Sarah, ils se séparent en 1940. Mais ils ne vont jamais divorcer. En 1946, tous les leaders sionistes sont arrêtés par les Britanniques ou doivent s'enfuir à l'étranger. Et c'est Golda qui va diriger le département politique de l'agence juive. Le 14 mai 1948, au musée de Tel Aviv, Ben-Gourion proclame la fondation de l'État d'Israël. À ses côtés, il y a 23 autres responsables qui signe la déclaration d'indépendance. Parmi eux, il y a Golda, qui est donc véritablement l'une des fondatrices d'Israël. Mais le nouveau pays n'a pas de quoi se défendre contre les pays arabes qui l'attaquent. Golda est envoyée aux États-Unis. Elle parle couramment l'anglais et là-bas, elle récolte suffisamment d'argent pour acheter des armes à la Tchécoslovaquie. Golda devient à son retour le premier ambassadeur d'Israël en Union soviétique. Et c'est elle qui fait la cuisine pour tous les diplomates. Le jour de Rosh Hashanah, en 1948, dans ce pays où la religion est interdite, 50 000 juifs acclament Golda dans les rues autour de la grande synagogue de Moscou. Puis, elle est rappelée en Israël, où elle devient ministre du Travail. De 1949 à 1956, elle accomplit une mission de géant. Il faut intégrer tous les Juifs qui arrivent d'Europe, du Moyen-Orient et du Maghreb, construire des logements, des écoles, des hôpitaux et des routes. Ben-Gourion, qui dit d'elle qu'elle est le seul homme de son gouvernement, confie une nouvelle mission en 1956 à Golda, le ministère des Affaires étrangères. Il lui impose d'hébraïser son nom. Désormais, on l'appellera Golda Meir. Mais Ben-Gourion garde pour lui les principaux dossiers, en particulier les relations avec les États-Unis, l'Union soviétique, l'Europe et en particulier la France. Golda a alors une idée de génie. Il faut établir des relations avec les pays africains qui accèdent à l'indépendance. Elle va souvent sur place. Elle organise des programmes de formation et de coopération. Et elle ouvre 28 ambassades dans le continent. En 1963, Ben-Gourion démissionne. Son successeur, Lévi Eshkol, a peur de Golda, qui prend trop de place, et il ne lui confie aucune responsabilité. Mais en 1969, Lévi Eshkol meurt, et la coalition au pouvoir va chercher Golda. Elle hésite. Elle demande conseil à ses enfants. Ils ont souffert toute leur vie de ses absences, mais ils lui disent « Vas-y, maman ». Elle devient donc la première femme Premier ministre d'Israël. Et c'est la seule à ce jour. Israël doit faire face au terrorisme palestinien qui multiplie les attentats dans le pays mais aussi dans le monde. En septembre 1972, des terroristes ont tué 11 sportifs israéliens aux Jeux Olympiques de Munich. Golda donne l'ordre de retrouver les assassins et de les liquider un par un, ce qui sera fait. Mais la plus grande épreuve de Golda Meir, c'est la guerre de Kippour. À part le chef d'état-major, tous les militaires qui entourent Golda, y compris Moshe Dayan, le ministre de la Défense, ne prennent pas au sérieux les informations des services secrets qui annoncent une attaque imminente de l'Égypte et de la Syrie. Golda se laisse influencer, ce qui est la première fois peut-être dans sa vie. Israël est attaqué le 6 octobre 1973, le jour de Yom Kippour, et il faudra près d'une semaine pour que Tsahal repousse les armées ennemies. Mais cette guerre va coûter cher. 3000 Israéliens sont tués et 8000 sont blessés. Une commission d'enquête, la commission Agranat, est nommée. Elle considère que Golda n'a rien à se reprocher et qu'au contraire, elle a fait face avec courage et sang-froid à cette situation dramatique. Mais Golda est épuisée. Elle est contestée par une grande partie de l'opinion et elle souffre d'un cancer. Le 11 avril 1974, elle démissionne et c'est Yitzhak Rabin qui succède. On reverra Golda le 19 novembre 1977 pour accueillir aux côtés de Begin Sadat lors de son voyage historique à Jérusalem. Golda lui offre un cadeau pour sa petite fille qui vient de naître et lui demande « Président Sadat, pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ?» Golda meurt le 8 décembre 1978. Elle avait 80 ans. Le jour de son enterrement, la comédienne Orna Porat lit des extraits des mémoires de la grand-mère d'Israël. Golda avait écrit « Ma vie a été grandement bénie. J'ai vu naître l'État d'Israël qui a accueilli des millions de Juifs. Je crois que la paix arrivera un jour. Et j'ai vu aussi mes 5 petits-enfants grandir en Juifs libres en Israël, dans ce pays qui est le leur et qui le restera. »
Shoshana.